Mahmoud Traoré est sénégalais. Comme de nombreux jeunes autres africains, il décide un jour de 2002 de partir clandestinement pour l'Europe. Il raconte son périple dans un livre « Partir et raconter », écrit en collaboration avec l'écrivain Bruno Le Dantec, un livre sorti aux éditions Ligne à l'automne dernier.
Levé avant l'aube, ma sœur Kadi a préparé un sacrifice pour bénir mon départ, puis elle a réveillé la maisonnée. Son mari Moussa, elle et moi, nous nous contentons d'un café, pendant qu'accroupis en cercle, leurs quatre enfants et cinq ou six de leurs copains du quartier plongent la main droite dans une calebasse pleine de pain de la veille imbibée de lait sucré. Les yeux embués de sommeil, mes neveux nous observent en silence, le lait leur dégouline jusqu'au coude. Seul l'aîné, Fatoma, le petit père, est conscient qu'il se trame quelque chose. Dans ce sacrifice, le pain partagé appelle la paix, le lait symbolise la pureté, et le sucre, c'est la saveur des jours d'abondance. Le plat terminé, ma sœur présente un seau rempli d'eau fraîche pour qu'on s'y rince les mains, et de ses doigts humides, elle effleure le front de chacun des enfants. Elle ouvre ensuite la porte et jette le contenu du seau sur le trottoir. « Traverse », m'intime-t-elle. L'eau répandue doit m'assurer un voyage bénéfique. En franchissant la flaque, je passe la première frontière.
Partir et raconter, livre de Mahmoud Traoré et de Bruno Le Dantec, écrivain qui a mis en mots le récit de Mahmoud, se lit comme un livre d'aventure. Une aventure glaçante, terrifiante, d'un migrant clandestin qui ne devra sa survie et finalement son passage en Europe qu'à un instinct de survie à toute épreuve, une volonté surhumaine et la conviction d'un retour en arrière impossible. Bruno Le Dantec.
Dès le départ, hein, dès la première frontière, le premier douanier, par exemple à la frontière malienne, il part de Dakar. Ça commence déjà, sous prétexte qu'il n'a pas de passeport. Le fait de ne pas avoir de passeport, ça ne l'empêche pas de traverser, juste il faut simplement qu'il paye. Et puis c'est une corruption, c'est pas le fait du migrant, hein, c'est pas que le migrant corrompt de manière active le douanier, c'est que c'est la taxe, on paye le thé, comme dit Mahmoud, ou le snack aussi on dit. Et donc ça commence comme ça. Ça se poursuit après avec les passeurs, avec les passeurs Touareg pour traverser le Sahara. Au Niger, c'est terrible aussi. Toutes les forces de l'ordre, tous les corps de police et de gendarmerie, l'armée, les douaniers, tout le monde trouve un prétexte pour arrêter les taxi-brousses, les bus ou voyagent donc ces migrants et les mettre à l'amende. C'est terrible. C'est ce qui fait que même s'ils partaient avec suffisamment d'argent pour arriver au bout du voyage, ce qui n'est jamais le cas, de toute façon, ils se font, ils se font voler, racketter en route, et ils doivent donc, à chaque étape, travailler dans des pays où tu imagines, il n'y a pas de boulot. C'est des pays d'émigration. Le Niger, le Mali sont plus pauvres que le Sénégal. Donc ils se retrouvent dans des situations... Mahmoud a connu la précarité, la faim. Dans le voyage, il n'avait jamais connu au Sénégal, par exemple. Et eux-mêmes, entre eux, ils se bouffent le foie. Le fait qu'il existe du racisme, y compris les Maghrébins envers les subsahariens, mais aussi entre subsahariens, entre anglophones et francophones, entre musulmans et chrétiens, entre nationalités.
On sait aujourd'hui, l'immigration clandestine étant devenue un sujet médiatique, la façon dont les migrants clandestins sont exploités sans vergogne, économiquement et politiquement, du passage de leurs premières frontières jusqu'à leurs emplois sous-payés et sans droit dans les pays européens, pour celles et ceux qui survivent à la route et qui arrivent à passer. Mais le récit de Mahmoud Traoré permet de découvrir une dimension peu connue des parcours des migrants clandestins, celle d'une véritable société souterraine qui s'est constituée dans chaque ville de chaque pays traversée par les migrants. Bruno Le Dantec.
Ces foyers, ces espèces d'ambassades informelles ou de maisons nationales, que les Camerounais en ont une, les Sénégalais en ont une, dans chaque étape, à chaque ville traversée, les Sénégalais vont trouver un foyer sénégalais pour les recevoir. Je parle d'ambassade informelle parce que ça n'a rien à voir, bien entendu, avec les autorités sénégalaises. C'est du ressort de l'auto-organisation, de la débrouille. Et c'est là qu'on découvre une espèce de société souterraine, mouvante, nomade, mais qui se perpétue, qui s'auto-perpétue. Donc les gens ne font que passer, mais le lieu reste une tradition de fonctionnement reste, des chansons aussi, ça on me l'a raconté, c'est pas dans le livre, mais il y a des, dans les longs moments d'attente, les jeunes migrants chantent pour passer le temps et chantent sur l'heure. C'est une espèce de blues comme les hobos aux États-Unis au début du XXe siècle. Quoi. Et ces chansons se perpétuent, elles voyagent avec eux après, mais elles restent aussi, comme un témoignage de leur passage. Et ça c'est en dit long, je pense, l'anecdote en dit long sur cette espèce de société souterraine qui est assez incroyable. Quoi. Et donc, il y a ces maisons louées, comme ça, en général à des autochtones, hein, qui sont ces foyers-là, et qui sont régis, moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est régis, en fait, au départ, surtout dans la région sahélienne, quand ils sont encore un peu chez eux, par la tradition villageoise, on dirait. C'est-à-dire que le voyageur le plus ancien, le locataire le plus ancien, est le chef du foyer. C'est celui qui paye le loyer au propriétaire, et c'est lui qui gère le foyer, qui pose des règles pour être accepté dans le foyer, quel est le loyer qu'il faut payer, les caisses communes qu'on fait pour la bouffe, pour le quotidien, et qui gère aussi le contact avec les passeurs pour la prochaine étape. C'est là aussi où il commence à y avoir un petit business. C'est là que la logique du profit commence à pénétrer dans cette espèce de communauté souterraine des migrants. Et petit à petit, au plus, quand on entre dans le Maghreb, enfin dans la Libye d'abord, et puis après le Maghreb, on bute à pas mal de racisme, à une traque des forces de l'ordre. Ces foyers se replient encore plus sur eux-mêmes. Et la logique du profit, au plus on approche de l'Europe, au plus la logique du profit prend de l'importance. Parce que le but se rapproche, les enjeux économiques sont de plus en plus énormes. Et donc voilà, petit à petit, on en arrive à, Mahmoud dit, petit à petit, ces foyers se transforment en ghettos, ce qu'ils appellent des ghettos. Les aventuriers, donc, parce que je parle de migrants, moi, mais eux, entre eux, ils se définissent comme des aventuriers, se regroupent ensuite à partir de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Ce ne sont plus des foyers donc en ville, urbains, mais des campements d'une précarité assez assez atroce dans des collines, aux abords des villes ou aux abords des frontières plutôt. Et ça fonctionne toujours en général par nationalité, bien qu'il y ait des regroupements aussi quand les petits pays se regroupent entre eux ou demandent l'hospitalité à un pays plus grand. Et là, on se retrouve, c'est plus juste un chef de foyer, là, on se retrouve avec des espèces de gouvernements informels de ces ghettos, ce qui est... moi, au début, j'en croyais pas mes oreilles, quoi. C'est une autorité pyramidale qui se donne des noms qui rappellent les gouvernements modernes, quoi. Donc, il y a un président, qu'on appelle aussi chairman, comme dans les multinationales, un premier ministre, un chef de la police, une police... Voilà, et des rôles répartis comme ça, avec à la fois l'ancienneté qui continue à jouer, mais aussi quand même un mode de fonctionnement de plus en plus coercitif et brutal, étant donné que donc, les enjeux économiques sont forts. Ces autorités font l'intermédiaire avec les passeurs marocains ou algériens et font du business. Et c'est des espèces de regroupements, ces chefs, ces gouvernements informels de ghetto, qui gouvernent parfois par la violence et qui imposent. Par exemple, le premier ghetto que connaît Mahmoud, c'est incroyable, mais il entre librement, on ne lui demande pas de payer, contrairement au foyer où il fallait payer une participation. Là, on ne lui demande pas de payer, mais par contre, c'est pour partir. On ne part plus du ghetto tant qu'on n'a pas payé. Et payer, c'est payer le passeur donc, qui va faire traverser la frontière pour pénétrer au Maroc. C'est à Marnia, ça, hein, donc la dernière ville algérienne avant, en face de Oujda. Et pour payer aussi ces gouvernants informels, ces chairman, ces ministres, ces chefs de la police, comme ça, qui donc font un business la plupart du temps pour financer la suite de leur voyage. Mais certains, on se rend compte au bout d'un moment qu'il y en a certains qui trouvent tellement leur compte dans ce genre de petites affaires. Mahmoud les appelle, et c'est pas le seul à les appeler comme ça d'ailleurs, des hommes d'affaires. Hein, c'est clair, là, on dirait vraiment qu'ils s'adaptent très bien, trop bien, à la philosophie de la libre entreprise qui les attend une fois arrivés en Europe. Ils prennent les devants et ils montrent patte blanche, on dirait, là, pour dire voilà, nous on a tout compris là, sur ce que c'est la libre entreprise, et allez, on fait du business. Et donc, certains d'entre eux, de ces migrants, renoncent à l'Europe Ils n'ont plus envie d'atteindre l'Europe parce qu'ils gagnent suffisamment d'argent en exploitant leurs congénères. Si on entre bien dans les détails, et Mahmoud, je trouve, une de ses qualités, c'est que c'est loin d'être un fanfaron, il ne se pose ni en victime, ni en héros. Il a une manière assez fine de raconter les choses. Il ne diabolise même pas les gens qui l'exploitent, d'ailleurs, la plupart du temps, il le décrit de manière assez sobre. Et ça permet de voir avec une certaine finesse ces mécanismes-là. Et en fait, qu'on ne peut pas idéaliser non plus les migrants. Il ne faut surtout pas les criminaliser, parce que ce n'est pas vrai quoi, que tous ces mouvements migratoires sont aux mains de mafias. Il y a aussi des réseaux de solidarité, d'entraide. Et la preuve en est avec le final du voyage. Hein, c'est par exemple avec l'organisation de ces assauts collectifs sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. On voit qu'il y a aussi une humanité solidaire parmi eux. Quoi.
Un garçon s'est levé à notre approche. Bienvenue à vous, mes frères. Il s'appelle Bouba Boiro et son grand-père a vécu à Temanto avant de s'installer dans un hameau voisin. Nous ne l'avons plus vu au village depuis longtemps et il nous raconte qu'il a passé ses deux dernières années en Côte d'Ivoire chez un oncle commerçant, mais qu'il a dû fuir la guerre. Il est désormais à la recherche d'un nouveau passage vers l'Europe. Plumé par les flics postés à l'entrée de la ville, il est bloqué ici depuis déjà 3 mois. Ayant à peine de quoi se payer à manger, il ne peut pas s'offrir le luxe de téléphoner à sa famille, ni même celui d'une cigarette. Il a bien écrit à une cousine qui vit à Barcelone avec un homme, mais elle ne lui a pas encore répondu. Il nous présente au chef de foyer, Aliou Sow. Cet homme, qu'on appelle Sow tout court, est en quelque sorte le président des Sénégalais d'Agadez. Les rabatteurs de la gare routière t'aiguillent vers lui et tu y vas tête baissée, parce que tu es loin de chez toi et que tu espères retrouver un peu de la chaleur des tiens. Sow n'a jamais eu l'intention d'aller en Europe, mais il fait commerce de son assistance aux compatriotes de passage. Comme il en arrive sans cesse, il gagne bien sa vie. Propriétaire des murs, il se comporte comme un président de ghetto, de ceux que nous connaîtrons plus tard au Maghreb. De fait, les camarades qui ont déjà fait l'aventure l'appellent Chairman Sow, avec une pointe d'ironie.
Pour en venir aux assauts collectifs qui ont lieu à l'automne 2005, donc, tu parlais des hommes d'affaires qui géraient les ghettos, ces ghettos qui sont situés à deux pas des barbelés et des murs et tout un dispositif de sécurité pour pas que les migrants traversent. Ces assauts collectifs se sont faits contre ces hommes d'affaires qui régissent les ghettos.
Oui. Oui, c'est ce qui est intéressant dans l'assaut auquel a participé Mahmoud le 29 septembre 2005 a été très médiatisé parce qu'il a coïncidé, parce qu'il y a eu plusieurs centaines de subsahariens qui ont foncé sur la frontière, donc sur les grillages, sur les barbelés, et il y a eu des morts parce qu'on a tiré dans le tas. Sans doute des deux côtés. Hein. Les Marocains ont accepté au bout d'un moment d'endosser le rôle du méchant. Mais je pense que ça paraît assez logique que les guardias civils, qui étaient de l'autre côté, du côté espagnol, ayant dégainé leur arme, paniquant, en voyant cette masse de gens se foncer sur eux, ça me paraissait évident qu'ils ont tiré aussi.
Mais bon, c'était quoi ? C'était pas loin d'un millier de personnes là,
qui... Oui, pas loin d'un millier, d'après Mahmoud. Oui. La guardia civile a estimé ça à 600, je crois, qu'ils estiment. Hein. Mahmoud, lui, dit pas loin d'un millier. C'est difficile, de toute façon... Cet assaut-là donc, a été très médiatisé. On l'a utilisé pour faire peur. On a parlé d'avalanche, d'invasion, d'assaillants en Europe. Et après, par réaction, il y a certains militants de la défense des migrants qui ont parlé, eux, et je pense qu'ils tombent un peu dans le complotisme, de manipulation. Le gouvernement marocain, la police marocaine aurait manipulé les migrants, aurait envoyé des agents provocateurs pour les inciter à foncer sur la frontière en masse, créer de la panique chez les Européens et négocier les subventions que l'Europe donne au Maroc pour gérer en amont, hein, pour sous-traiter le flicage de la frontière. Ça a été envisagé. Dans le récit de Mahmoud, il décrit bien comment les clandestins regroupés dans ces ghettos organisent cet assaut sur la frontière. Et on voit bien que ce n'est pas manipulé par des agents provocateurs. Quoi. C'est un acte de désespoir, parce qu'ils sont acculés contre la frontière par les forces marocaines, qui organisent des razzias, qui détruisent leur campement, où il y a des brutalités assez hallucinantes, des viols, et où on les déporte après vers le désert algérien. On les met d'abord en prison à Tétouan, puis après par quarantier, on les déporte au sud d'Oujda, à une centaine et quelques de kilomètres au sud d'Oujda, dans l'Ergue, dans ce désert qui n'est pas encore complètement saharien, là. Et on les expulse du côté algérien, comme ça, pour s'en débarrasser. Tout en leur disant qu'ils peuvent revenir quand ils veulent, hein, parce que donc le Marocain a besoin de ces migrants pour justement négocier ses subventions avec l'Union européenne. La situation en 2005 devient intenable dans ces campements-là, parce qu'ils sont donc soumis à ces razzias permanentes des forces auxiliaires marocaines, soumis à la brutalité, à l'expulsion des policiers espagnols quand ils réussissent à franchir la frontière, soumis au trafic, à l'exploitation par les trafiquants marocains qui leur proposent, moyennant finance, de les faire passer ou par patera, c'est-à-dire par bateau, le détroit de Gibraltar, ou en magouillant, en cisaillant les grillages de la frontière, entrer dans Ceuta ou Melilla, ou aller vers les îles Canaries aussi. Plus le gouvernement, ce gouvernement informel des ghettos, qui lui aussi fait peser une pression très ambiguë quoi sur eux, en même temps qui s'occupe du ravitaillement, qui met à disposition un téléphone en cas d'urgence pour appeler la famille, des choses comme ça, mais qui principalement quand même fait son beurre. Hein, il y a le cas du chairman Abdelkader qui est clairement qui est devenu un trafiquant quoi. Il est établi au Maghreb, il n'en partira pas, il fait son beurre avec les migrants. Donc il y a ce moment où en but à toute cette adversité, les migrants ont fait preuve de sursaut de désespoir et d'une capacité d'auto-organisation qui est assez admirable, selon moi. Et c'est là que ça va en contradiction avec l'idée du complot, de la manipulation totale de la police marocaine. Ils organisent cet assaut comme dernier recours, comme c'est vraiment ouais, tant pis, on va peut-être nous tirer dessus, mais là on n'en peut plus quoi. Même la simple survie dans les campements est devenue presque impossible, et donc ils choisissent de passer en force. Et c'est, je trouve, un des aspects très intéressants du récit de Mahmoud, quoi. C'est là où on voit, pareillement, ils se font sujet de leur histoire là, et collectivement. C'est-à-dire, on n'essaye plus de passer par petits groupes à la frontière, on y va tous ensemble. Voilà. Et donc là, on peut arriver effectivement après à parler de tous ces petits trafics qui ont été commis sur le dos, toutes ces petites exploitations, petites et grosses. Toute cette chaîne de profits, petits et gros, fait sur le dos des migrants, on se rend compte qu'arrivé au bout de ce chemin, contrairement à ce que croient les migrants, les problèmes ne finissent pas une fois entrés en Europe. Hein. Et donc, on se dit, l'exploitation des migrants sur la route est terrible, est brutale, est cynique, hein, mais quel est le plus grand profiteur de ces mouvements migratoires? Il est au bout de la route, il est au bout du chemin. Et c'est le marché européen, c'est le marché du travail européen, clairement. Et c'est là qu'effectivement il faut mettre le doigt dans la plaie, quoi. C'est ce que j'essaye de faire dans la postface. L'Europe a besoin d'immigrer. Elle le dit quand elle a besoin de le dire, hein, d'ailleurs. Hein, Franco Frattini, qui est membre de la Commission européenne, hein, et c'est lui qui gère tout le thème frontières, justice, sécurité. Il a déclaré en 2005 que à la même époque où Mahmoud donc est entré en Europe, que l'Europe, dans les 20 années à venir, va avoir besoin de je ne sais plus combien de millions d'immigrés. Pour des questions de démographie, de marché du travail, de besoin de main-d'œuvre bon marché, il n'entre pas dans les détails, mais bon, on sait. Et c'est là qu'on se dit, mais comment on peut manier une telle hypocrisie, quoi, parce que ça coûte en vie humaine, en souffrance et en vie humaine, mais ça coûte. Voilà, il y a des milliers de morts à cause de cette hypocrisie européenne sur l'immigration. Et donc, ça, il faut aussi dire, l'Europe a besoin d'immigrés, mais l'Europe aussi a besoin d'immigrés sans papier. Ça aussi, il faut le souligner, il faut le dire et le redire. Et il y a des preuves tangibles. C'est pas plus loin qu'en Andalousie, là où vit aujourd'hui Mahmoud. Il y a des zones entières de l'agriculture intensive, que ce soit les tomates et les poivrons d'Almeria ou les fraises de Huelva. Surtout Almeria d'ailleurs. Pratiquement le 100% de la main d'œuvre qui travaille sous les serres d'Almeria est sans papier. Et c'est de notoriété publique. On sait que la police ne contrôle personne dans ces zones-là, parce que ça n'intéresse pas. Il n'y a aucune chasse aux sans-papiers, parce qu'ils sont indispensables au maintien de cette agriculture, qui est une agriculture néfaste, qui inonde le marché européen de primeurs cultivés hors sol, bombardés de produits chimiques, et donc produit par une main-d'œuvre hors sol aussi. Ce que je dis aussi dans la préface, c'est que c'est pas seulement, on pourrait aussi accuser le sud, parce que c'est vrai aussi dans le sud de l'Italie par exemple, on pourrait accuser un sud arriéré économiquement d'être particulièrement sans foi ni loi et sans scrupules dans son exploitation de la main-d'œuvre immigrée, mais nous savons que jusqu'au cœur du premier monde, du monde développé, nous avons aussi des cas, rappelons-nous en 2008, de la grève des sans-papiers dans les restaurants des Champs-Élysées. Là, si on n'est pas au cœur du monde, du monde occidental, du monde développé, on ne l'est nulle part ailleurs. Et nous savons qu'il y a des secteurs entiers, des secteurs professionnels qui ont recours à une main d'œuvre clandestine, que ça soit la restauration, le BTP, l'agriculture et j'en passe. Et ça, c'est de notoriété publique. Donc là, c'est vraiment quand on voit les souffrances qu'endurent Mahmoud et ses compagnons. Quand on voit le nombre de morts aux portes de l'Europe, je sais pas. Voilà. Au minimum. Au minimum. Voilà, j'ai préféré pousser un soupir là parce que je ne trouvais pas le mot pour dire, mais c'est révoltant, quoi. C'est révoltant.
Je vais vivre ici pendant plus d'un an, de juin 2004 à septembre 2005. Pendant cette période, je serai déporté dans le désert à 3 reprises. Et à chaque fois, je mettrai presque 2 semaines pour revenir à pied. Le campement est une sorte de bidonville, surgi de nulle part. Nous ramassons des branchages, recyclons des bouts de planches, achetons des bâches de plastique et avec ça, nous fabriquons nos cahutes qui, adossées les unes aux autres, abritent un minimum de 4 personnes chacune. Nous surélevons nos couchages pour éviter d'être trempés par les ruissellements de pluie. Nous récupérons des bidons pour les corvées d'eau. La source est à plus de 2 kilomètres du campement. Les ghettos maliens et sénégalais sont collés l'un à l'autre. Un peu plus loin se trouve celui du Nigeria, puis celui du Cameroun. Les Guinéens de l'ethnie Soussou ont implanté leur camp sur un sommet boisé, un peu à l'écart. Les Soussou sont en général des migrants plus aisés. La plupart d'entre eux voyagent en avion, de Conakry à Casablanca, d'où le chef du ghetto local les envoie vers Bel Younesh. Les Congolais se sont installés à distance eux aussi, car ils ont eu des soucis avec les Maliens. Des soucis tellement sérieux qu'on a même parlé de guerre. Des femmes ont été violées, des hommes gravement blessés à cause de la jalousie de 2 types qui convoitaient la même fille. C'est à ce moment-là, pour sortir de la crise, qu'on a créé les Casques Bleus, une force multinationale chargée de s'interposer en cas de conflit. À cause de la promiscuité, la zizanie n'est jamais loin. Et pour maintenir la paix, les présidents organisent des conférences internationales pour réaffirmer les lois de la forêt, décréter des règles de cohabitation pacifiques et faire en sorte qu'elles soient respectées. On appelle cela l'Union africaine.
Vous écoutez La Grenouille, on est en compagnie de l'écrivain Bruno Le Dantec pour le livre « Partir et raconter » qui décrit à la première personne le périple de Mahmoud Traoré, jeune sénégalais, parti en 2002 sur les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe. Europe qu'il atteindra à l'automne 2005 lors des assauts collectifs organisés par des centaines de migrants sur les barrières de Ceuta, un bout d'Espagne au nord du Maroc. Une odyssée contemporaine qui se termine par quelques questions posées par Bruno Le Dantec. dans la postface, bon, tu donnes quelques chiffres, tu racontes aussi l'agence Frontex et tout ça avec les dispositifs terrifiants qui sont mis en place par l'Europe dans leur collaboration avec les pays pour essayer d'empêcher les migrants de migrer. Tu finis en disant que peut-être ce qui arrive aux migrants, c'est ce qui nous arrive à nous aussi, c'est-à-dire une sorte d'exil commun à tous, aux migrants comme aux pas aux migrants, une sorte de dépossession. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus, sur ce qui, selon toi, fait qu'on est tous en exil aujourd'hui, migrants ou pas migrants ?
J'avais envie de finir en ouvrant un peu le propos, de ne pas finir exclusivement sur le thème migration, ou en tout cas le ramener à nous. Pour conclure, simplement une petite conclusion de la postface. Quoi. Et je lance des pistes, quoi. C'est pas, je n'avais pas la place, j'avais pas envie d'étouffer le récit de Mahmoud, donc je voulais quand même pas en parler pendant des pages et des pages. Mais oui, j'avais envie d'ouvrir cette voie de réflexion, quoi. C'est que on a l'impression aujourd'hui que le statut de l'immigré et de l'immigré sans papier, c'est un peu, oui, le bout de la chaîne. Alors maintenant, il y a les Roms aussi. Mais c'est le bout de la chaîne de la dépossession, du dénuement. Donc c'est un secteur de la population qui est en butte à tous les mépris, toutes les exploitations, tous les rejets. Mais on se dit que ça se tient et on remonte la chaîne. Et juste avant, ben voilà, il y avait les migrants qui sont arrivés avant, qui maintenant s'acharnent sur les derniers arrivés comme pour montrer patte blanche, comme pour dire ben moi je suis intégré, donc je peux être aussi raciste que les Français de souche. Regardez, moi aussi je brûle un camp de Rome. Regardez. bon, il y a tout ça, et donc on tire du fil là comme ça, et puis on se rend compte que effectivement le sentiment de dépossession, ma réflexion a commencé avec pourquoi les gouvernants, surtout en France, mais pas seulement, maintenant en Grèce, ils commencent à le faire aussi pour faire oublier la crise financière. Ils commencent à proposer, via les exactions de l'extrême droite, les migrants comme bouc émissaire. Pourquoi on propose avec autant d'acharnement et comme sujet vraiment, comme leitmotiv de campagne électorale et trucs comme ça, pourquoi on propose toujours cette phobie de l'étranger, cette peur de l'étranger. Pourquoi ? Sans doute pour faire oublier que nous-mêmes, dans notre propre pays, on est de plus en plus étrangers. Et c'est un sentiment que j'ai, et je pense qu'il est partagé par de plus en plus de gens. Va demander à, je sais pas moi, aux gens de Fralib qui se font jeter comme des vieilles chaussettes, à tous les précaires qui galèrent, ou tout simplement plus généralement, tous les citoyens de ce pays à qui on fait croire qu'ils vivent dans une démocratie où ils ont les clés de la situation en main, où ils peuvent voter tous les 5 ans pour avoir un gouvernement librement élu. Et en fait, on est dans des situations où on ne choisit rien. On ne choisit pas comment on veut vivre. On a les moyens de vivre bien. Il y a une production hallucinante qui fait de bien et qui fait qu'on pourrait très bien vivre, et on vit de plus en plus mal. Donc il y a vraiment... Alors tu as parlé d'aliénation. Oui, on peut parler d'aliénation. J'ai préféré parler d'exil pour faire le pont avec les migrants.
De dépossession,
on peut dire. Et de dépossession aussi. Mais l'exil, c'est vrai que ça en arrive à être un exil. On a l'impression d'être exilé à l'endroit même où on est né, parce qu'on est dépossédé de la possibilité de s'inventer une existence. On est mis dans des rails, et dans des rails en plus qui nous mènent vers le mur. Quoi. On est de plus en plus nombreux à être conscients que voilà qu'on va à la, que ce système il va à la faillite et qu'il nous entraîne avec lui. Donc voilà, il y a tout ce sentiment de dépossession qui fait qu'on n'est pas si loin. Et je pense que c'est voilà qu'il y a des rencontres possibles entre nous et les migrants, à partir du moment où on ne les considère plus comme une menace, hein, comme des gens qui viennent nous voler notre pain, quoi. Et je pense que c'est c'est un enjeu de notre temps, quoi, de renverser un peu la manière de réfléchir à tout ça, de se dire qu'on est tous exilés dans un monde qui ne nous appartient plus.
Mahmoud Traoré était de passage à Marseille, un festival littéraire, tu étais avec lui, là, les littorales. Qu'est-ce qui devient aujourd'hui? La fin du livre se conclut par son retour à Dakar, temporaire, puis il rentre en Espagne où il décide de s'inscrire dans une démarche de formation pour un métier de menuiserie et de demander sa naturalisation. Donc comment ça s'est passé à Marseille littoral et il en est où de cette démarche-là?
Donc c'est les libraires indépendants de Marseille qui organisent les littorales, ces rencontres-là avec des auteurs. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Mahmoud est venu d'Andalousie jusqu'ici. Et il a été, vraiment, il était enthousiaste, quoi. Il était très fier. Ben, il a découvert le livre en arrivant, en plus. Et il sortait fraîchement d'imprimerie. Et donc c'est émouvant. Moi je suis ému. Et c'est pas mon premier livre, lui, imagine, quoi. Tu vois, c'était vraiment un truc. Et puis, ce qui a été vraiment très... très beau, c'est la rencontre que les littorales ont organisée avec des collégiens, le collège Henri Vallon à Bonsecours. Ça a été un moment vraiment exceptionnel, quoi. Les profs avaient fait du bon boulot, ils avaient fait lire des extraits du livre aux élèves, et on a passé deux grosses heures de discussion à bâton rompu avec trois classes, de quatrième et troisième. Les profs nous avaient dit, vous verrez, hein, c'est un sujet qui est chaud, quoi. C'est une insulte, Clando, quoi. Ouais. Et en fait, ça a été les questions qui nous ont été posées, surtout à Mahmoud, mais à moi aussi, étaient très très intéressantes et beaucoup d'entre elles très intelligentes. Hein, on voyait vraiment que ça allait toucher de près, parce que bon, il y avait 80%, c'était des fils de Comoriens ou de Maghrébins, hein, qui étaient dans la salle, et Il y a eu de très belles questions, quoi. Ça allait de la question de « montre-nous la cicatrice que tu t'es fait en sautant les barbelés », dans des questions de gamins, quoi. Mais voilà, de gamins qui ont lu un bouquin et qui se sont laissés prendre par le... Et puis après, jusqu'à des questions, vraiment, on voyait qu'il y avait eu une vraie réflexion, quoi. Est-ce qu'un monde sans frontières, ça peut exister? À propos des ghettos et des gouvernements informels dans les ghettos, comme ça, une gamine d'une quinzaine d'années, comme ça, qui pose la question, mais Mahmoud, est-ce que vous croyez que quand des hommes vivent ensemble, c'est obligé qu'il y ait ce genre de chef? C'est des belles questions qui donnent à réfléchir. Il y a eu un vrai dialogue vraiment intéressant. Et là, vraiment, on a eu les larmes aux yeux tous les deux, parce que c'était nos premiers lecteurs, quoi. On les a remerciés, ces gamins. Et là, je me suis dit, voilà, l'intuition de départ, on a eu raison, quoi. On a eu raison. Ça peut toucher des gamins de 14-15 ans, ce bouquin-là, et il valait le coup d'être fait, quoi. Et il y a une gamine, France 3 est venue filmer un peu la rencontre, et il y a une gamine qui a été interviewée à la fin, et elle a déclaré ça, franco de port, devant la caméra. Elle a dit, jusqu'à présent, dans la cour, avec les copines et les copains, comme ça, quand on se disait clando, c'était une insulte. On dit, t'es arrivé du bled hier à la nage, c'était une insulte. Après avoir lu l'histoire de Mahmoud Traoré, on se rend compte que ces gens-là, c'est plutôt des héros. Et voilà, si on arrive à ce genre de résultat, je crois que les 2 ans de boulot là, pour pondre ce bouquin valaient la peine.
Sinon, sur la démarche de Mahmoud Traoré, donc...
Oui. Ouais. Donc Mahmoud, lui, comme tu disais, a suivi une formation de menuisier, donc il revient un peu, là aussi, c'est la boucle est bouclée, puisque quand il est parti de Dakar, il était apprenti dans un atelier de menuiserie. Il en part parce qu'il vivait dans une banlieue de Dakar où il y a énormément de pêcheurs, ruinés par la pêche industrielle, entre autres européenne ou japonaise ou russe. Donc c'est aussi... ça a provoqué son départ, ça aussi, ça, il faut le dire. Et donc il revient à ses premières amours, quoi, la menuiserie, le bois. Et il suit une formation, là il en est à sa troisième année, c'est une formation un peu pointue. Dans l'idée de pouvoir, parce qu'il se pose la question, est-ce que ça, tout ça valait le coup? Est-ce que j'ai envie de vieillir en Europe? Est-ce que j'ai envie de retourner au pays? Il se pose tout un tas de questions. Et donc, il veut, s'il repart, ne pas repartir les mains vides, d'où sa formation. Et puis, il veut être naturalisé espagnol. Pas seulement de manière utilitaire, parce qu'il se dit afro-andalou aujourd'hui. Il est très, très bien intégré dans son quartier là-bas, à Séville. mais aussi et surtout, et c'est la dernière phrase de son récit, c'est pour pouvoir aller et venir librement.
C'était l'écrivain Bruno Le Dantec, Partir et raconter, le livre qu'il a écrit avec Mahmoud Traoré et publié par les éditions en ligne. Il se trouve dans toutes les bonnes librairies et sur édition au pluriel -ligne au pluriel.com. Les extraits du livre que vous avez entendus lors de cette émission ont été lus par Stéphane Galland. Merci d'avoir été à l'écoute, vous pouvez réécouter ou télécharger quand vous le souhaitez cette émission sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com.